Je précise. Hein.
Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Radio Sésame, la radio des élèves de Villepatour. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Radio Sésame, la radio des élèves à Villepatour. Aujourd'hui, nous accueillons deux conteuses, amis de notre établissement, Joël et Christine. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
On aimerait que vous nous parliez de votre passion de conte. Depuis combien de temps pratiquez-vous cette activité ?
Bien, ça fait une dizaine d'années maintenant que je vais dans différents endroits avec les autres conteurs, des écoles, des bibliothèques, des associations et... nous comptons des publics très différents. Et c'est pour nous un grand plaisir de rencontrer des gens que nous n'aurions pas eu l'occasion de rencontrer et surtout de continuer la tradition orale du conte.
Vous appartenez à une association, pouvez-vous nous en parler ?
Alors, c'est une association qui a été créée il y a 5-6 ans et qui est partie d'un groupe de conteurs qui existait déjà sur Combs-la-Ville et qui éprouvait le besoin de se constituer en association, parce que c'était plus simple administrativement, on va dire. Et depuis, eh bien, nous rayonnons sur une partie de la Seine-et-Marne et une petite partie de l'Essonne, dans différents lieux.
Je compléterai la réponse de Joël en disant que ce lieu de l'association est aussi un endroit qui nous permet de travailler ensemble, de préparer nos comtés, de tester nos nouveaux comptes, de discuter entre nous, de tas de questions qu'on se pose quand on prépare un compte et qu'on commence à se le mettre dans la bouche. Voilà.
Comment avez-vous connu Villepatour ?
C'est votre directeur qui nous a contactés et qui nous a demandé si nous serions disponibles pour venir compter dans son établissement. Et nous, on a dit oui, bien sûr. Et c'est effectivement une des... comment dirais-je, une des rencontres les plus intéressantes et les plus riches qu'on ait faites depuis que l'association existe.
Pourquoi c'est si différent ?
Parce que vous avez des oreilles extraordinaires. Vous avez une écoute très au-dessus de la moyenne.
Moi aussi.
Comment êtes-vous devenue conteuse ?
En ce qui me concerne, tout à fait par hasard. J'ai toujours eu un... relation très forte aux livres et aux histoires. J'ai été libraire spécialisée jeunesse pendant plus de 10 ans. Donc j'ai toujours été en contact, mais à ce moment-là, je ne comptais pas du tout. Et ça s'est fait tout à fait par hasard. J'ai rencontré des gens qui travaillaient en atelier et qui disaient que toute personne qui avait envie de s'intéresser au conte pouvait venir librement. Voilà comment ça a commencé.
Et vous étiez fière ?
Oh, pas au début. Au début, t'as surtout le trac. Ça vient bien après de commencer à être fière.
Combien de temps cela vous prend dans votre vie ?
Alors, 1h30 tous les matins. On compte 1 ou 2 fois par semaine, donc ça fait des séances aussi d'à peu près 1 heure. Mais en plus, il y a la préparation des séances, hein. Et qui rejoint le travail en équipe qu'on fait sur les comptes. Alors, ben, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est du plaisir.
Quelles sont les origines des comptes que vous racontez ?
Toutes origines. En fait, bien souvent, on rencontre un conte par hasard. On en lit beaucoup, on en écoute, on en entend. Et puis, d'un seul coup, il y en a un qui donne envie. Alors, on s'y intéresse un peu plus précisément. Et si l'intérêt persiste, on décide de le préparer, de le compter. Mais ça veut dire qu'on s'intéresse aux contes de tous les pays. Et voilà, quoi.
Avez-vous des techniques spéciales pour mémoriser vos contes ?
Oui, c'est une des premières choses qu'on apprend. Nous formons des images dans notre tête. Et ce que nous vous racontons, c'est ce que nous voyons sur l'écran de notre cerveau. Et en fait, nous n'apprenons pas, nous ne mémorisons pas. Nous voyons des images qui défilent et nous vous racontons ce que nous voyons.
Quels sont les publics que vous rencontrez le plus souvent ?
3 ans, 103 ans ?
Oui, oui, on peut dire. On peut dire ça,
gros, de 3 ans à plus de 100 ans.
Est-ce que c'est souvent dans des écoles ?
Alors, il y a les écoles, bien sûr, les bibliothèques, les foyers, des associations pour une journée particulière. Qu'est-ce qu'on a encore ? Et puis le spectacle, le conte-spectacle, quand on participe à la caravane des contes. Il y a un endroit où on compte très agréablement, ce sont les veillées à domicile. On va chez les gens, on raconte des contes, on les rencontre, ils invitent leurs amis, leurs voisins. Et ça, ce sont des rencontres très chaleureuses.
On les choisit toujours très, très, très soigneusement, les histoires qu'on raconte un jour donné, à un endroit donné, devant un public donné. Donc dans ce sens-là, oui, on est fiers ce jour-là de dire, voilà, c'est ce conte-là qu'on vous offre.
Quels sont vos sentiments face au public ?
Eh bien, ça dépend du public. Si le public nous renvoie quelque chose de sympathique et de chaleureux, eh bien, on a envie de lui donner beaucoup. Si le public ne réagit pas, ne bouge pas, ne renvoie rien, on se sent vite un peu tout seul et un peu perdu.
Est-ce que vous seriez prêt à revenir travailler avec nous ?
Oh oui, certainement.
On est déjà revenu.
Bah oui, on y est là.
Au moins 3e rencontre.
Plus que ça même. On était venu dans le cadre d'un projet, donc on était venu au moins 2 ou 3 fois.
Et pour finir, pouvez-vous nous raconter un extrait de conte ? Un ou deux contes ?
Eh ben, on va essayer. D'abord, je vais vous raconter une histoire de Nasreddin. Nasreddin, c'est un petit personnage qui est connu dans tous les pays méditerranéens, un petit personnage à qui il arrive toujours des tas de petites histoires. Et ce jour-là, c'était son anniversaire à Nasreddin. Le matin, il est passé chez le boucher, il a acheté un petit kilo de viande, et puis il a demandé à sa femme de lui préparer son meilleur tagine. Et lui, pendant ce temps-là, il est allé rejoindre ses copains au café. Sa femme était réputée pour sa cuisine. Aussitôt, elle s'est mise au travail. Elle a coupé des oignons, des légumes, la viande en morceaux pas trop gros. Elle a mis tout ça dans son plat à tagine avec des épices, quelques citrons confits, un peu d'olive. Et allez, mijote. Bientôt, ça a commencé à sentir très bon dans la cuisine. Elle n'a pas pu s'empêcher d'aller goûter. Elle a pris un petit morceau de viande. Elle n'était pas assez cuite. Et quelques minutes plus tard, elle y est retournée, elle a pris un autre morceau de viande. Ça peut encore attendre un peu. Et puis un morceau de viande après un morceau de viande, de fil en aiguille, bientôt il n'a plus resté que la sauce dans le plat. Et vers midi, Nasreddin est rentré à la maison. Ça sentait bon. Mais quand il est arrivé dans la cuisine, il a trouvé sa femme en larmes. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Oh mon mari, si tu savais. Le chat, ce voleur, il a mangé toute la viande. Nasreddin a regardé le chat, il était là tranquillement en rond sur son coussin. Il l'a pris par la peau, du coup il l'a posé sur la balance, 1 kilo tout juste. Ah là ma femme, il va falloir que tu m'expliques. Si ça c'est le chat, où donc est la viande ? Et si c'est la viande, qu'est-ce que t'as fait du chat ? Eh bien, rien que pour ce rire-là. Moi, je veux bien raconter toute la soirée.
Est-ce qu'on peut en écouter un deuxième ?
Oui, bien sûr qu'on peut. C'était le matin. Il faisait encore frais. Et le vent caressait les joues de Driss. Il avançait à grands pas sur la plage. Il portait un gros filet sur son épaule. Et là-bas, il y avait sa barque qui l'attendait. C'est que Driss, il était pêcheur. Il partait tous les jours en mer. Il avance. Oh ! Le voilà qui manque de tomber. Il regarde par terre. Et là, posé sur un lit d'algues humides, il voit un crâne. Un crâne humain, poli comme un galet roulé par la mer, lisse et brillait au soleil. Driss s'est frotté les yeux. Mais c'est pas possible, je rêve. Il a un peu poussé le crâne avec son pied. Et le crâne, qu'est-ce qui t'amène ici? Les dents claquent, les mâchoires s'entrechoquent. La parole. Un crâne? Un crâne qui parle? Oh non, je rêve, c'est le vent qui me fait des tours. Et Driss a recommencé à pousser un peu le crâne. Mais dis-moi, ce qui t'a amené ici? La parole. Il y avait un peu d'impatience dans la voix du crâne. Cette fois, Driss en était sûr. Lui, Driss, le pauvre pêcheur, à qui il n'arrivait jamais rien, un crâne humain lui avait parlé. Oh, il fallait que ça se sache. Il fallait avertir les autorités. Ben pour le moment, l'autorité la plus proche, c'était le chef du village. Alors Driss a couru à toute allure jusqu'à la case du chef, qui était en train de manger un poulet délicieux. Et quand il a vu Driss arriver, il s'est dit « Oh là 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 là, je finirai pas mon poulet ». Driss s'est approché. « Chef, chef, là-bas, sur la plage, il y a un crâne. » « Ah oui, un crâne qui parle, chef. » « Non, Driss. Non. Tu sais bien, je t'ai souvent dit que tu ne dois pas boire du vin de palme si tôt le matin. » Driss, lui, savait bien qu'il avait bu que du lait de chèvre depuis ce matin. « Mais venez avec moi, chef, vous le verrez. » Bon, le chef a abandonné son poulet. Il a suivi Driss jusque sur la plage. Et là, oui, posé sur un lit d'algues humides, il a vu le crâne. Driss s'est agenouillé à côté du crâne. « Hé, hey, parle-lui, c'est le chef !» Rien. Juste le vent qui passait. Driss transpirait à grosses gouttes. Le chef n'était pas content du tout. « Si tu m'as menti, Driss, je te coupe la tête. »« Hé, hey, le crâne, mais dis-lui quelque chose, c'est le chef !» Rien. Juste les mouettes rieuses. Le chef a trouvé que ça suffisait et il lui a coupé la tête et il est reparti. La tête de Driss a roulé à côté du crâne et sont, pour ainsi dire, joue contre joue. Le crâne se tourne vers la tête de Driss. Hé, qu'est-ce qui t'a amené ici? La tête de Driss se tourne vers le crâne. La parole.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci pour les très jolis spectacles que vous nous avez offerts au mois de février. Et à bientôt pour de nouvelles émissions.
Merci à vous.